Eh bien, on est de retour et pour moi, c'était tout naturel de parler des grands moments de la dernière année avec la voix, pour moi, du 98.5. Il était là quand je suis parti, il était là quand je suis revenu, il est tout le temps là, Jérémy Filosaire. Comment ça va?
Hey, salut Martin, merci de l'invitation.
Écoute, merci à toi d'avoir dit oui, puis qui d'autre pour, je te considère un des très bons généralistes dans notre milieu, tu touches à tout, de plus en plus spécialisé en soccer, mais on peut pas commencer... Pas une revue de l'année, mais les moments marquants de l'année, sans commencer avec le fameux Black Lives Matter.
Oui, ça a été incroyable, ce mouvement-là qui a explosé. On dirait qu'à chaque année, on sent de plus en plus de frustration, puis on sent aussi le besoin d'essayer de mettre un terme à tout ce que l'on voit, bien sûr, du côté des États-Unis, mais aussi au Canada et partout sur la planète. Le racisme systémique, oui. Et les joueurs, plus que jamais, n'ont plus peur de se lever, n'ont plus peur de dire ce qu'ils ont à dire, surtout maintenant, plusieurs ligues se rangent derrière eux. C'est pas comme... je te dirais qu'on a évolué juste dans les 3-4 dernières années, si on recule à Colin Kaepernick, et on se souvient la position de la NFL lorsqu'il avait pour la première fois placé un genou au sol. Là, les équipes sont derrière les athlètes et les encouragent à manifester de façon, bien sûr, dans la paix et tout ça, mais de le faire. Et on l'a vu dans plusieurs sports, dans la MLS, dans la NBA, les joueurs une fois pour toutes, lèvent le poing, démontrent leur frustration.
Jay, je pense là, que présentement, on est en train de faire la même erreur année après année. Je le vois là, sur les bandes, je le vois sur le terrain, je le vois en arrière des casques au football, mais on n'en parle pas comme on en parlait il y a 6 mois. Bravo au basketball qui ont décidé de ne pas jouer. Et là, ça a réveillé tout le monde. Mais faut continuer à aller ailleurs parce que sinon, ça va encore une fois s'estomper. Je pense qu'on a fait un pas de géant. Je pense que les gens comprennent ce qui se passe. Tu sais, je vais prendre l'exemple de LeBron James qui, je me souviens, quand il a gagné le prix de Jackie Robinson, il disait « C'est grâce à un gars de même que je peux faire ce que je fais dans la vie. » Et LeBron a été tellement impliqué avec le Black Lives Matter que s'il y a un aspect pour moi que LeBron est en avant de Jordan, c'est son implication sociale, mais faut pas que ça s'estompe.
Non, t'as raison, mais c'est sûr que malheureusement, ce sont les incidents négatifs qui ramènent le sujet dans le spotlight, comme on dit, puis c'est là, c'est comme dans n'importe quelle autre sphère de la société. Je vais donner un exemple, disons la violence conjugale, on n'en parle pas, mais là, à un moment donné, quand il arrive quelque chose, je sais pas moi, un athlète qui est pris, puis là, on voit des images, là, c'est là qu'on en parle, donc on dirait que ça nous prend des incidents pour qu'on en parle, et l'affaire, là, c'est que dans le sud des États-Unis, là, il y a des endroits où c'est pas commun de croiser un Afro-Américain, d'avoir un Afro-Américain dans ta classe ou dans ta sphère de travail. Donc, si le gars que t'adules dans ton équipe de basket ou dans ton équipe de football, c'est un Afro-Américain, ben ça se peut que tu sympathises un peu plus avec le mouvement puis que tu comprennes aussi un peu d'où ils viennent. Donc, c'est super important que ces gars-là utilisent leur plateforme qui est immense, qui est gigantesque pour faire passer le message.
Ben oui, puis tu sais, je m'amuse toujours à dire, tu sais, le plus grand joueur de basket est Afro-Américain et de race noire, le plus grand pilote d'F1 est de race noire, le plus grand golfeur, même s'il n'est pas au sommet, c'est Tiger qui attire les foules. Fait que, tu sais, les sportifs, là, peut-être qu'ils sont aveugles, mais, tu sais, ils adultent les Afro-Américains. Puis ça nous amène à parler de basket. On a réussi à terminer cette saison dans la bulle. Ça a été le sacre des Lakers. Est-ce que tu trouves que c'est teinté, ce championnat-là des Lakers, parce que ça a été dans la bulle?
Non, pas du tout. Je veux dire, toutes les ligues ont dû finir ça dans des bulles et toutes les équipes, plus ou moins, étaient sur le même, le même piédestal, sauf peut-être en MLS où tu avais vraiment une exception qui était faite pour les équipes canadiennes qui vraiment, ça allait au-delà de ce que les autres équipes avaient à vivre, mais pas du tout du côté de la NBA. C'est un championnat qui est mérité et en plus, dans le cas de LeBron, je veux dire, si on doutait encore aujourd'hui du fait qu'il était peut-être le plus grand de tous les temps, je veux dire, partout où il passe, il gagne. C'est pas compliqué. Malgré les circonstances, malgré la ville, malgré les coéquipiers, il gagne tout le temps.
Jay, LeBron ou Michael?
Ben, moi, c'est Michael pour moi parce que quand j'étais jeune, c'était Michael. Puis c'est lui qui m'a fait triper sur le basket quand j'étais jeune. Donc, ça me remémore les beaux moments de mon enfance. Mais force est d'admettre que LeBron James... est plus grand aujourd'hui, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. En plus, il s'implique encore plus dans les causes sociales et tout ça. Mais comment dire que LeBron n'est pas le plus grand de tous les temps? Difficile.
Ah, ben moi, je suis comme toi, mais moi, je reste sur Michael Jordan. Il l'a fait avec la même équipe. Drop the mic. That's it. Hey, il parlait de Black Lives Matter, mais toujours dans le sport. Un des plus grands, Lewis Hamilton, a battu les records de Michael Jordan. Et en plus, il a fait beaucoup parce qu'il a dit cette année, la Mercedes, elle va être noire, elle sera pas silver. C'est Lewis Hamilton et sa domination à F1.
Oui, absolument. Puis, tu sais, on critiquait à l'époque le fait qu'un gars comme Michael Schumacher avec Ferrari dominait tout le temps, puis on se posait des questions, est-ce que c'est un gars qui est dominant simplement à cause de sa voiture? Puis on pensait plus jamais en voir des Michael Schumacher. On pensait que ça arriverait plus. On pensait que Schumacher allait être le plus grand de tous les temps. Et là, de voir que Lewis Hamilton le dépasse, qu'il est le plus grand de tous les temps, et écoute, dans un sport, on va se le dire, où il n'y a pas beaucoup de noirs, là. Il n'y en a pratiquement aucun. Donc, si Lewis Hamilton et Tiger Woods, là, dans leur sport respectif, où il n'y en avait pas des noirs, d'être capable de devenir le meilleur de tous les temps, et dans le cas de Tiger, il reste encore quelques tournois des maîtres pour le faire, mais quand même, c'est absolument incroyable. Ça prend une force de... Tu sais, c'est quoi les odds? Je suis tout seul. Il y a moi, il n'y en a pas d'autres, mais c'est moi le meilleur.
Puis pas juste ça, là, c'est pas une question d'argent qu'il a amené là. Si vous connaissez pas la vie de Lewis Hamilton et des documentaires, c'est pas le cash qui a amené Lewis Hamilton là. Donc, c'est de travailler fort. C'est son père qui réparait son kart. Bref, t'as raison de mentionner. Puis sais-tu quoi, Jay, en plus? Mm-hmm. Il en reste, il a pas fini, lui.
C'est
il
sûr.
Il en reste avant lui, en plus.
C'est sûr. Okay.
Écoute, la pole, à part la dernière qui était à Verstappen, toutes les autres pole positions étaient gagnées par une Mercedes, sauf une sous la pluie, Lance Stroll. Et j'ai toujours défendu Lance Stroll en disant « Arrêtez de critiquer le gars pour peu importe la raison. Il est parmi les 22-23 meilleurs pilotes au monde et il est jeune encore. » Puis je trouve qu'il a montré de quoi il était capable sous la pluie alors que plus rien tient au niveau des réglages de voiture. Stroll avait décroché la pole.
Mais écoute, moi, je pense que la question la plus importante, as-tu vu une évolution dans Lance Stroll en 2019 et 2020?
Au niveau des points, oui. Mais tu sais, souvent, il a été battu par son collègue.
Je comprends. Mais en même temps, c'est l'évolution qu'on veut. On veut un gars qui apprend, on veut un gars qui va aller chercher de l'expérience. Et ça va le permettre d'aller plus loin au cours des prochaines années. Je trouve qu'on est vraiment dur avec lui. T'as raison de le mentionner. Je sais pas si c'est comme on recule en arrière puis on veut immédiatement Jacques Villeneuve ou Gilles Villeneuve, parce que les Québécois qui ont piloté en F1 dans l'histoire, ça a toujours été les meilleurs, mais ça prend une période d'adaptation. Ça dépend aussi du véhicule, ça dépend de l'équipe qui est autour de toi. Moi, je trouve pas que c'est une saison catastrophique, loin de là. Moi, je m'arrange pas mal de ton côté.
N'oubliez pas, hein, Jacques est arrivé dans la voiture gagnante. Là, c'est pas la même
chose.
Non. Tandis que Lance n'est pas arrivé chez Mercedes. Il est arrivé chez Williams. Puis on vient de voir George Russell, ce qu'il vient de faire en sautant d'une Williams à une Mercedes. J'espère que les gens ont pris des notes, mais la saison, pour moi, 2020, va avoir été marquée par cet accident de Romain Grosjean. Je pensais qu'il laissait sa vie, Jay. J'étais en onde live avec Paul au 98.5. On a décrit ça. Comme on dit, là, comme tu fais au soccer, là, en direct, play by play.
Ouais.
Écoute, il en a fallu peu pour qu'il laisse sa peau.
Écoute, quand je l'ai vu sortir des flammes, là, c'était comme si on regardait un film.
Eh oui,
non, mais c'est sérieux, là. Tu sais, c'est comme genre le film où il y a le gros accident, puis là, le gars, il sort, tu sais, il y a rien, il n'y a pas de blessure, puis on est comme, ben oui, toi, tu sais, c'est des films de même. Puis regarde, dans la vraie vie, il sera mort 10 fois, puis tout ça. Mais là, lui, non! C'est dans la vraie vie. Il sort d'une bulle de feu. Écoute, c'est comme si c'était un fantôme dans Scooby-Doo, maudite affaire. J'en revenais pas. Puis comme tu viens de le mentionner, on recule il y a 15 ans, c'est sûr qu'il est mort. Puis ça, c'est ça qui est fantastique dans le monde de la Formule 1, parce qu'il y avait une période où, écoute, il y a des années où on a perdu plus qu'un pilote par année, là. Je veux dire, c'était absolument désastreux. Mais de voir qu'on peut avoir un accident aussi spectaculaire, aussi grave, et que le pilote puisse s'en sortir, j'espère qu'il va être en mesure de poursuivre sa carrière. Je sais qu'il y a eu des brûlures importantes à ses mains et tout ça, mais au moins, je pense
ça se terminait malheureusement pour Romain Grosjean, donc ça sera une manière plate de terminer ça, mais... Ça va être terminé, mais comme tu l'as dit, une boule de feu dans Scooby-Doo, c'est ce qu'on va retenir.
C'est exactement. Le fantôme baseball. Qui sort de la boule de feu.
Ah, incroyable. Baseball, les Blue Jays qui jouent pas au Canada, qui jouent à Buffalo. On voit quelque chose de le fun du côté des Jays. Ils sont jeunes. Là, j'étais un peu mêlé. Là. On n'arrête pas de parler de vouloir aller chercher un Areco, Lindor, entre autres. Alors que j'étais là, voyons, non, on n'a pas un popé, nous autres. Là.
Oui, mais sauf que là, c'est un peu la même situation que d'autres équipes canadiennes dans d'autres sports. C'est-à-dire que comment tu fais pour attirer des joueurs autonomes d'envergure quand tu sais même pas où est-ce que tu vas jouer? C'est pas impossible que les Blue Jays retournent à Buffalo encore une fois cette année. Moi, je veux lever mon chapeau à cette organisation-là parce que moi puis mon fils, on a beaucoup suivi les Blue Jays d'il y a 3, 4, 5 ans. On a trippé. On les a délaissés un peu pendant les années les plus difficiles là récemment. Mais cette année, on a regardé beaucoup de baseball, moi et mon fils. Puis on a beaucoup apprécié cette jeune équipe-là et d'avoir eu le caractère de se classer pour les matchs éliminatoires, même si tu n'as pas joué un maudit match dans ton propre stade et tu t'es fait dire par la santé publique, attention, 3 jours avant le début de la saison que finalement ça ne marcherait pas puis que l'équipe serait obligée de s'en aller aux États-Unis. Moi, je lève mon chapeau à cette organisation-là qui a su remonter les plus grands défis cette année. C'est juste dommage que ça se soit terminé rapidement en match éliminatoire, mais ce n'est que partie remise.
Ouais, j'ai hâte de voir la suite des choses. Bo Bichette, c'est tout un frappeur. Puis en plus, on l'a manqué pendant la saison, il était blessé. Puis Vladimir qui a avoué qu'il avait pas pris ça au sérieux, qui est arrivé overweight. On le voit présentement à quel point il claque la balle. J'ai vraiment hâte de revoir les Blue Jays, mais on va-t-il voir à Montréal contre les Rays de Montréal? Il est rendu où ce dossier-là? Est-ce que la COVID vient nous assassiner notre dernier espoir d'avoir du baseball à Montréal?
Pas du tout. Puis moi, tout ce que j'entends, là, c'est que dans le sport professionnel présentement, même du côté du basket, et ce sera sûrement le cas aussi du côté du baseball majeur, on veut se servir des expansions pour renflouer les coffres. L'argent qui a été perdu durant l'année de la COVID. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est dit publiquement dans ce dossier-là, mais quand tu entends Stuart Sternberg dire « Nous avons fait des pas, attention, de géants » dans ce dossier-là cette année, même si tout ça est demeuré derrière les portes closes, mais quand il dit on a fait des pas de géant sur la maquette et aussi le financement, moi ça me dit que ce dossier-là avance très bien. Stuart Sternberg veut continuer de mettre de la pression sur la ville de Saint-Pétersbourg. Lui, il veut pas poursuivre là-bas d'aucune façon. Donc moi je pense qu'on va avoir un dénouement très intéressant, peut-être au cours de la prochaine année, mais il faudrait que la pandémie nous lâche un peu, là, tu sais, pour qu'on puisse vraiment tirer ce dossier-là vers l'avant. Là.
C'est pas juste dans ce dossier-là, on a juste hâte qu'elle nous lâche solide. Écoute, c'est bien lancé, c'est moment marquant de l'année 2020. Dans quelques instants, on s'arrête, dans quelques instants, mon moment marquant de l'année, et c'est pas nécessairement un événement sportif, vous allez comprendre dans quelques minutes, on revient. Eh bien, on est de retour et on regarde les grands moments marquants de l'année du sport 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'excellent Jérémy Filosa. Jérémy, signe qu'on vieillit puis qu'on n'est plus les petites jeunesses qu'on était quand on a commencé ensemble à CKC Sport. Mon moment de l'année, c'est le décès de Kobe Bryant et je pense que c'est venu chercher le papa en moi. Cet accident d'hélicoptère tragique qui, pendant que tout le monde parlait du sportif, à quel point il a été grand. Ben moi, je pensais au père de famille qui voyait sa fille tomber avec lui puis qui pouvait rien faire malgré qu'il était pour plusieurs un super-héros.
Oui, ah, ça, c'était une histoire épouvantable. Aussi jeune de voir Kobe Bryant partir. Puis moi, là, j'ai jamais vraiment aimé les petits avions, les petits hélicoptères. Écoute, je sais pas combien de personnalités publiques on a perdu dans les 20, 30, 40 dernières années suite à des accidents d'aviation, mais c'est surtout dans des petits avions, des petits hélicoptères. Ben exactement. Roy Halladay, on peut penser à qui d'autre? John F. Kennedy Jr., par exemple. On peut parler, j'écoute justement The Crown là, sur Netflix. La sœur du prince Philippe est décédée de cette façon-là. Il y a notre ami Michel Laplante du côté de Québec qui a été impliqué dans un accident du même type. Moi, je trosse pas ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, les gros avions, c'est une chose, mais les plus petits, ça me fait toujours peur. Et écoute, quelle tristesse épouvantable. En plus, comme tu viens de le mentionner, il décède pas tout seul, mais il amène sa petite fille là-dedans aussi. Écoute, ça a choqué le monde du sport, littéralement, là, pendant quelques semaines. On ne parlait que de ça, là.
Ah oui, puis j'ai le livre sur mon bureau, juste à côté de moi, là, Kobe Bryant, The Mamba Mentality. Écoute, une grande personne qui est partie. Puis sais-tu quoi, il est parti l'année où il aurait eu un grand impact encore dans le monde du sport parce que lui, Black Lives Matter, il l'aurait supporté. La place c'est des sûr. Femmes avec la place de sa fille au basketball, il aurait supporté ça. Donc, une grande perte dans le monde du sport, celle de Kobe Bryant. Pendant que tout était arrêté, Jay, il est venu quelque chose qui est venu, en tout cas pour moi, combler un manque parce qu'il n'y avait pas de sport à la télé, il n'y avait rien de live. Mm-hmm. C'est le documentaire le plus écouté de l'histoire de Netflix, The Last Dance, le documentaire de Michael Jordan, que si vous n'avez pas vu ça, c'est à voir et à revoir.
Oui, puis moi, je l'ai regardé avec, avec ma conjointe, puis même si elle n'est pas une grande fan de sport, elle a vraiment dévoré ce documentaire-là. Parce que, écoute, on en a parlé peut-être un petit peu tout à l'heure, mais on parle d'un des plus grands athlètes au monde, et des fois, on se demande qu'est-ce que ça prend pour être un des plus grands. Puis je pense que l'affaire qu'on a appris dans ce documentaire-là, c'est que les plus grands, parfois, ils ont pas ben d'autre choix que d'être selfish. Tu sais, c'est des gars qui souvent ne pensent qu'à eux, en ont pas vraiment beaucoup pour les autres. Ils veulent être les meilleurs, puis il n'y a pas d'égal. Il n'y a personne qui peut les accoter. Ils peuvent être même jaloux des plus petites choses que quelqu'un d'autre va avoir, ne serait-ce que de les avoir battus une seule fois. Ils ont la vengeance au cœur, la rage au cœur d'aller aller chercher la rédemption. Puis moi, c'est ça que j'ai appris le plus de Michael Jordan dans ce documentaire-là, c'est qu'il y a aucune place pour la pitié ou l'amitié ou quoi que ce soit. C'est moi, puis je vais être le plus grand, puis tasse-toi si t'es dans mon chemin.
Es-tu surpris, parce que ça prenait son autorisation pour publier les images, es-tu surpris qu'il ait autorisé les images qui le rendaient moins parfait que tout le monde le voit?
Ben, moi, ce que j'ai été surpris, c'est de voir que ça a pris tout ce temps-là pour raconter son histoire. On parle d'un des plus grands athlètes qui, non seulement dans le monde du basket, mais qui a transcendé son sport et qui a amené le monde du marketing sportif à un autre niveau que plusieurs autres athlètes pourraient seulement rêver de faire. Donc, ça a pris du temps pour qu'on raconte son histoire, une histoire absolument incroyable. Mais à un moment donné, si tu veux que les gens embarquent, ben, il va falloir que tu autorises certaines choses. Puis, soit dit en passant, il y en a beaucoup qui se sont plaints pour dire que c'était pas tout à fait ça. Puis, ils n'ont pas raconté ce bout-là. Donc, je pense qu'il y en a quand même un bon bout qui a dit non, ce bout-là, là, il ne passera pas. Là.
Il y a c'est quand sûr. Même des limites.
C'est sûr.
Ben, écoute, puis, tu sais, je suis convaincu que c'est à revoir qu'on ne comprenait pas toutes les subtilités. Tu sais, il y a bien des affaires qui nous ont passé vite d'en face puis qu'on pourrait re-regarder puis dire je me souvenais pas de ce bout-là. Mais c'est à voir The Last Dance. Un de nos collègues au 98.5, ancien joueur de baseball et surtout une grande personne, non pas par sa grandeur physique, mais par la grandeur de son cœur, Derek Aucoin, a été honoré cette année également.
Oui, absolument. Puis Derek Aucoin, tout lui revient, hein. Tu sais, sa place au temple de la renommée du baseball canadien et tout ça. Tu sais, c'est plate qu'on soit obligé de précipiter tout ça. Je pense qu'on veut lui rendre hommage le plus possible pendant qu'il peut encore l'apprécier, bien sûr. Mais tu sais, des fois, je me rends compte qu'on a des athlètes chez nous qui réalisent des choses absolument incroyables. Tu sais, les Québécois qui ont lancé chez les Expos, là, je veux dire, t'as Claude Raymond, t'as Derek Aucoin, bon, on peut, Réal Cormier qui était un Acadien et tout ça, il y en a pas des tonnes. Il y a Denis Boucher, tu sais, il y en a pas des tonnes. Donc, ces gars-là, faut les apprécier, c'est des joyaux, c'est des gars qui peuvent nous faire apprendre des choses. Puis des fois, j'ai comme l'impression qu'on prend ça pour acquis parce qu'on dit, il a juste lancé une coupe de game. Ben oui, mais tu sais ce que ça prend pour se rendre?
T'en as lancé combien, toi, des manches, des majeurs?
Hey, écoute, là, je veux dire, juste d'avoir atteint les ligues majeures, c'est extraordinaire. Tout ça est pleinement mérité. Puis Derek voulait aussi s'impliquer à l'extérieur du terrain. C'est un gars qui avait beaucoup à cœur l'avenir du baseball au Québec. Il travaillait très, très, très fort pour s'assurer que tout ça puisse avancer, puisse aller dans la bonne direction. Donc, tout ce qui lui revient présentement, c'est amplement mérité.
Oui, puis vous comprendrez que c'est un moment marquant pour nous parce que c'est un collègue. Exact. C'est pas non seulement un collègue à nous, 98.5, mais c'est un collègue à tous dans le monde des médias qui nous écoutent présentement. Je suis convaincu qu'ils ont tous une pensée pour Derek en ce moment. Jay, les Jeux olympiques ont été reportés en raison de la pandémie.
Ouais.
Et là, on a dit on va remettre ça en 2021, puis il faut que le hockey se finisse avant juillet parce qu'il va. Mais pas sûr, moi, qu'il va y avoir des Olympiques en 2021 parce que à quoi bon d'avoir des Olympiques? Tu sais, je comprends, là, bulle, on va faire des tests, ça va être le fun, là, je comprends tout ça, là. Mais les Olympiques, pas de spectateurs. Tu peux pas. Eux autres viennent de bâtir des infrastructures de plusieurs milliards de dollars pour accueillir des fans pour se rembourser. Ils peuvent pas tenir des Olympiques, pas de fans.
Non, écoute, je comprends que économiquement, financièrement, ça doit être épouvantable. Mais en même temps, pour moi, Je pense qu'on est passé maintenant devant l'étape de... Tu sais, au printemps, c'est qu'on a tout arrêté, puis là, on s'est tout regardé, on a dit « qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? » Puis là, pendant des mois, il se passe à rien. Mais là, là, on est rendu à l'étape des solutions. Tu sais, regarde, là, je regarde les ligues nord-américaines, ils ont toutes trouvé le moyen de passer au travers. Oui, il y a eu des cas ici et là. Oui, il y a eu des gars qui ont dû s'isoler. Mais Martin, à ce que je sache, là, je fais le tour de l'Amérique du Nord, là. Je veux dire, on n'a pas perdu personne. À ce que je sache, là, dans les athlètes professionnels qui l'ont eu, la COVID, on a été capable quand même de maintenir ça. On a été capable d'avoir des matchs. On a été capable de... Les gars sont testés aux 48 heures. Maintenant, on va avoir aussi le vaccin éventuellement qui va être accessible pour tout le monde. Moi, je pense qu'il faut trouver des solutions. On est dans une situation où il faut trouver des solutions. On ne peut plus rester assis sur nos steaks et dire, comme la Ligue canadienne, ben, il n'y aura pas de saison cette année, on se tourne les pouces et on attendra pour voir. C'est fini, là, attendre pour voir. On a quasiment un an d'expérience avec la COVID. Ben, ajustons-nous et essayons d'aller vers l'avant avec des solutions. Sinon, ben, on va être assis dans le siège du conducteur pendant combien de temps de même?
C'est, ça n'a pas de bon sens non plus. J'ai bien hâte de voir parce que, comme je te dis, ça prend des spectateurs pour rembourser tout ça. Là, puis le tourisme que ça génère pour ce pays, tu comprends-tu? Ouais. C'est tellement gigantesque. Donc, est-ce qu'on va demander les carnets de vaccins avant d'avoir accès aux accès au stade? En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on remettra ça? Tu sais, on aura peut-être une autre année avec les Jeux olympiques d'été et d'hiver la même année. Ça pourrait être une possibilité.
Écoute,
également.
Il y a l'Euro aussi qui a été remis, qui va avoir lieu cet été au lieu de l'été dernier. Donc, écoute, là, il va y en avoir des compétitions cet été. Donc, on est mieux d'être prêt. Puis tout ça va nous permettre d'être mieux préparés pour l'avenir, à savoir comment on fait pour tenir des compétitions, parce que ça ne peut pas continuer comme ça a été le cas en 2020. Là.
Encore plusieurs sujets à venir, bien sûr, le Canadien de Montréal et le hockey, mais également, après la pause, on vous parle de M. Lou Marsh. Deux fois M. Lou Marsh. On est de retour en compagnie de Jérémy Filosa. Vous vous préparez pour votre souper de Noël dans votre petit cocon de famille, parce que c'est le genre de Noël qu'on va avoir cette année. Merci d'être avec nous, avec Martin Lemay, Jérémy Filosa. Jay, l'impact de Montréal est certainement une des équipes qui l'a eu le plus rocambolesque cette année avec la COVID. Écoute, un super tournoi. Tu joues pas à Montréal, tu reviens, tu repars. Des joueurs qui sont, écoute ça, j'en venais pas, qui sont pour l'expansion alors qu'on joue le soir avec des joueurs qui seront même pas là l'année d'après. Pour le commun des mortels, tu sais, qui trippe hockey et qui est habitué d'avoir une fête de contrat à la fin de la saison pour commencer l'année d'après, là, l'Impact a connu une saison, ma foi du bon Dieu, épouvantable.
Ben ouais. Non, c'est pas digne des ligues majeures, malheureusement, avec tout ce qu'on a fait vivre aux équipes canadiennes. Les équipes MLS, en général, s'en sont bien tirées, mais les équipes canadiennes qui n'ont pas obtenu le feu vert de la santé publique pour jouer ici, en terrain canadien, puis ont dû s'exiler aux États-Unis, ça a été épouvantable. Et pour l'organisation de l'Impact, les Whitecaps aussi, et Toronto aussi, mais écoute, désastreux au niveau de la logistique. Tu sais, quand t'as des gars qui arrivent à la fin, là, puis ils veulent juste rentrer chez eux, quand t'as un tournoi de la Ligue des champions qui te pend au bout du nez, puis les gars, ils disent, ah, regarde, laisse donc faire, moi, je m'en vais chez nous, puis je suis tanné, puis j'ai pas vu ma femme depuis 11 mois, ni mes enfants, je suis même pas sûr si je vais les reconnaître. Ça va être beau, la Ligue des champions, je sais que c'est un beau tournoi, mais je vais repasser. Ça démontre à quel point les gars avaient vraiment hâte que ça se termine. Et tu sais, 2021 ne risque pas d'être mieux, malheureusement, avec la pandémie. Don Garber l'a dit, j'ai très peur pour le sort des équipes canadiennes pour l'année prochaine, parce que on le voit même du côté du hockey, c'est difficile d'obtenir l'approbation de la santé publique. Donc, il va falloir s'attendre à, malheureusement, pour l'Impact, là, probablement, une autre année de transition. On le voit, là, qui est-ce que l'Impact va chercher? Des jeunes. Des gars pas de famille, pas de femme, pas d'enfants, parce qu'ils se disent, ces gars-là, ben, ça va être
bon?
Des gars... Comment?
Sont-ils bons ou sont juste bons sur Tinder?
Ben, ils sont bons comme Roger Brulotte disait dans le temps des expos, t'en souviens-tu? C'est pas des prospects, c'est des suspects. Fait qu'on va le faire en temps et lieu. C'est des gars qui ont quand même des belles feuilles de route en tant que jeunes, mais on le sait, il y en a là-dedans qui vont se développer, il y en a d'autres que non. Mais je pense que là, présentement, on sait que 2021 risque d'être compliqué. Donc, attachons-nous pas avec des gars qui ont 2, 3, 4 enfants puis des familles, parce que pour ces gars-là, ça va être encore une fois insupportable, là, malheureusement.
Tellement. Financièrement, pour ça plutôt, déjà que c'était pas le fun, là, de pas être capable d'avoir... La MLS s'arrange comment pour que on n'ait pas des gens qui soient obligés de vendre leur club dans pas long?
Ben écoute, ils sont très chanceux, la MLS, d'avoir le système qu'ils ont, parce que c'est une ligue qui est vraiment beaucoup basée sur les partages des revenus. Pour ceux qui ne savent pas, là, les joueurs sont payés par la ligue. Donc, la Ligue gère le cash et non les équipes. Donc, on a été capable, on avait des fonds de réserve qui ont permis à tout le monde de survivre, mais ça ne peut pas durer éternellement parce que ça va être tout ou rien du côté de la MLS. Si tu as des clubs qui commencent à tomber, ça veut dire que la Ligue commence à tomber parce que tout part à partir de l'équipe. Donc, ça ne peut pas continuer de même pour l'Impact de Montréal qui perdait déjà entre 10 et 12 millions par année avant la pandémie. Donc, imaginez-vous ce que ça a dû être cette année, là.
Ouais, tu me parlais avant le show que Don Garber était frustré du manque de couverture. Ouais. Écoute, qu'est-ce que tu veux que les gars fassent? L'équipe est même pas à Montréal. Est-ce que c'est justifié, cette frustration-là de Garber?
Ben, écoute, dans son point de presse de fin de saison, j'ai vraiment senti qu'au moment où il a parlé de ça, ça a été le moment où il a parlé le plus de ses trips. T'sais. Je pense pas qu'il parlait spécifiquement du cas de Montréal, mais il parlait de la MLS en général. Ils ont beaucoup de difficultés. Tu sais, mettons un exemple. T'écoutes-tu des fois PTI occasionnellement? Je veux dire, c'est quand la dernière fois qu'ils ont pris une histoire de la MLS puis ils n'ont parlé? T'sais, je pense que c'est ça qui le frustre, le commissaire. C'est que du fait qu'on est capable de montrer un but spectaculaire, par exemple, de Zlatan partout sur la planète, mais ici, en Amérique du Nord, c'est à peine si tu étais capable de trouver la reprise en quelque part. Donc, il trouve qu'on manque de respect envers sa ligue. La seule affaire, c'est que les quatre autres ligues, veut pas, c'est des ligues où ce sont les meilleurs au monde. La NBA, c'est les meilleurs au monde. La NFL, c'est les meilleurs au monde. Même chose au hockey, même chose au baseball. Tandis que dans la MLS, on n'est pas rendu là. On est peut-être dans les top 10 meilleures ligues, mais on est peut-être 10e, mais on n'est pas dans le top 5 non plus. Donc ici, malheureusement, en Amérique du Nord, si c'est pas la meilleure ligue au monde, on a de la misère à donner de la crédibilité ou à s'y intéresser. Puis ça, malheureusement, ben, on a encore beaucoup de chemin à faire.
Oui, c'est comme si la KHL venait nous voir et disait « Vous en parlez pas assez à Sport 30. »
Ouais, ben écoute, je serais curieux de savoir en Russie, est-ce qu'ils traitent la KHL, est-ce que la couverture de la KHL est aussi bonne que celle de la Ligue nationale ou vice-versa? J'ai aucune idée, là, je pourrais pas te répondre à cette question. Mais moi, je pense que c'est important d'encourager le soccer local, parce que si on veut que ça grandisse, puis si on veut être capable de rattraper les plus grands pays au monde, ben, il faut que les gens embarquent, il faut que les gens investissent pour que ces équipes-là aient les moyens aussi d'essayer de rattraper ces ligues-là. Là. Sinon, ben, on n'aura pas, puis c'est tout, là, comme on dit.
Ouais, écoute, faisons un saut dans l'autre football, si tu veux, le football de la NFL, le football que je joue avec les mains.
Oui.
Écoute, les Chiefs, on semble oublier, c'est quand même en 2020, qui reviennent dans un match, ma foi, hallucinant. Et je pense que c'est là qu'on a confirmé, parce qu'on le savait, il avait été nommé MVP de la Ligue, on a confirmé le grand talent de leader de Patrick Mahomes. Parce que, contrairement à Lamar Jackson, qui avait l'air d'un bébé lala sur le terrain quand ça marchait pas à son goût, quand les Chiefs tiraient de l'arrière face aux 49ers, on a vu un Mahomes calme sur la ligne de côté, encourager ses coéquipiers, dire « Hey, on va le faire, on va le réaliser. » Pas de panique dans son jeu. Et ça a été une remontée spectaculaire, une victoire de 31-20 et une victoire pour un Canadien québécois, Laurent Duvernay-Tardif.
Oui, absolument. Incroyable. Ben, écoute, pour moi, j'ai pas vraiment eu de doute sur Patrick Mahomes, parce que Laurent Duvernay-Tardif nous l'a toujours dit qu'il était capable de le faire. Là, il s'est rendu au Super Bowl, il l'a gagné. Ça me fait penser aussi à l'année où Cam Newton s'était rendu au Super Bowl très jeune, puis là, on se demandait qu'est-ce qui va arriver avec Cam Newton. Est-ce qu'il va être capable de rester aussi haut pendant aussi longtemps, puis vraiment solidifier sa réputation comme un des grands carrières de la Ligue. Malheureusement, sa carrière a pris une direction différente. Il y a aussi eu des cas de commotion dans son cas. Mais dans le cas de Mahomes, mais disons aussi qu'autour de lui, il a l'équipe pour s'assurer de bien avancer, aller chercher l'expérience nécessaire pour être un des bons grands carrières de l'histoire de cette Ligue-là.
Andy Reid.
Quand t'as Andy Reid dans ton coin, ça aide énormément. Puis je dis pas aujourd'hui qu'il s'en va directement au temple de la renommée, mais il y a tous les éléments et les ingrédients autour de lui pour pouvoir continuer d'être un des meilleurs pendant tellement longtemps. Je regardais Big Ben qui avait un petit peu de la misère. 17 ans dans la NFL, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Mais tu sais, en espérant que Patrick Mahomes puisse connaître une carrière d'aussi grande envergure.
Oui, ça serait intéressant de voir la suite des choses pour Mahomes, mais je suis convaincu que tu tripes sur lui parce que c'est un ancien joueur de baseball, puis ça paraît sur certains lancers.
Oui, puis son père a été dans l'organisation des Expos de Montréal aussi, soit dit en passant. T'es-tu au courant?
Oui, je sais que son père a joué à balle et que lui a préféré le football, mais
exact.
Écoute, certaines passes de côté, tu fais comment qu'il est sidearm quand il lance au baseball, c'est sûr.
La balle sous-marine.
Oh oui, écoute, il nous en sort des belles. Laurent Duvernay-Tardif, Tu sais, pour tous ceux qui vont penser que la COVID n'existe pas, faites juste vous dire, un gars aussi intelligent que Laurent Duvernay-Tardif a abandonné son salaire de millionnaire, soit 6-7 millions par année, ouais, pour prendre un salaire de CHSLD préposé, prend pas un salaire de médecin, parce qu'il veut aider, parce que, fait que, tu sais, ceux qui pensent que ça n'existe pas, faites juste vous dire, Laurent, aurais-tu fait ça si ça n'existait pas? Puis il est médecin, il est au courant d'après moi. Quel Écoute, geste qui a été reconnu par tout le monde, autant aux États-Unis, Jay, qu'ici au Québec?
Oui, absolument. Les plus grandes plateformes qui l'ont vraiment encensé, ESPN entre autres et tout ça, comme Kim Clavel aussi d'ailleurs, qui a fait qui a pris la même décision, mais bon, pas le même genre de salaire, c'est sûr, mais je veux dire, c'est un geste qui va rester dans l'histoire du monde du sport. Moi, personnellement, je vais te dire, je vais être bien franc avec toi, jamais j'aurais fait ça. Je veux dire, si tu as une carrière d'athlète professionnel, le plus gros spotlight au monde, tu viens de gagner le Super Bowl, je comprends que le gars est aussi médecin, mais moi, j'aurais été trop avare. Pas avare financièrement, mais avare de ma carrière de joueur de football. J'aurais dit, garde, m'a impliqué puis m'a aidé une fois que ma carrière va être terminée. Mais au moment où on se parle, tu sais, j'ai combien d'années à jouer au football? 5, 6, 7 maximum. Après ça, je vais pouvoir m'impliquer autant que je veux. J'aurais pas eu le courage de prendre la décision que lui a prise. Puis ça va rester dans les annales du monde du sport québécois, canadien et nord-américain parce qu'il y en a pas beaucoup d'autres qui auraient fait. Écoute, c'est digne des athlètes professionnels qui, durant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ont laissé leur équipe pour aller défendre les honneurs de leur pays. C'est incroyable ce qu'il a fait, là.
Ah oui, ben écoute, ça me fait penser à Pittman qui avait quitté le football pour aller en Afghanistan.
S'enrôler dans l'armée, ben oui.
Exactement, donc c'est dans cette catégorie-là. Et il a été nommé, co-nommé avec Alfonso Davies comme le joueur Lou Marsh de l'année. Je pense que Larry Walker aimait ça vouloir partager avec Jacques Villeneuve quand il s'était plaint, qu'il s'était fait battre par un char. Mais là, je pense qu'on a fait la bonne chose en nommant les deux bonhommes récipiendaire du trophée Lou Marsh.
Oui, parce que dans le cas d'Alfonso Davies, on parle beaucoup de l'évolution du soccer au Canada, mais Alfonso Davies, c'est le visage, c'est l'emblème de l'évolution du soccer au Canada. On parle d'un jeune homme qui a été développé au Canada par les Whitecaps de Vancouver, vendu au Bayern de Munich. Non seulement il devient un joueur incontournable dans l'alignement partant, mais il devient le premier Canadien à mettre la main sur le prestigieux trophée de la Ligue des champions de l'UEFA, bien sûr celle de l'Europe. Et là, il met le Canada sur la map. Moi, je me souviens quand Olivier Renard arrive ici comme directeur technique de l'Impact de Montréal, connaissait pas grand-chose du soccer canadien et tout ça, mais Alfonso Davies, il savait qui il était, m'a dire une chose, et il savait qu'il y en aurait d'autres pépites comme ça qui s'en venaient au Canada. Donc, tu sais, il met notre pays sur la map mondiale du sport le plus grand sur la planète. Donc, non, c'est absolument incroyable ce qu'a fait Alfonso Davies cette année. Je comprends pourquoi on n'a pas été capable de déterminer entre l'un et l'autre.
Oui, puis Jay, juste pour que le monde comprenne, là, Alfonso Davies, dans le monde du sport, à travers le monde, est plus connu que Carey Price.
Ben, c'est clair, c'est clair. Écoute,
juste
moi,
pour les puristes du Canadien qui nous écoutent, là, juste que vous compreniez que c'est important, Alfonso Davies.
Des fois, je regarde, là, par exemple, là, je fais Google, OK? Fais Google vite, vite, là. Combien il y a de joueurs de hockey sur la planète? Amateurs et professionnels, là, je pense que c'est 35 millions. Ben, dans le monde du soccer, c'est à peu près 360 millions. Fait que t'en as à peu près 10 fois plus de monde qui joue au soccer. Donc, veux pas. Je veux dire, la Ligue des champions de l'UEFA s'est présentée dans tous les pays au monde. Et tout le monde suit ça. Tu sais, des fois, je regarde le soccer en Amérique centrale parce que des fois, quand l'Impact joue contre en Ligue des champions, je regarde la télé espagnole pour voir des reportages parce qu'il y a plus de contenu sur ces chaînes-là qu'au Québec ici. Mais entrecoupé tout le temps, Ligue des champions UEFA, Ligue des champions UEFA, ouais. La Juventus, Bayern Munich, puis NYFC Barcelone, puis tout ça. Puis c'est ça, c'est la plus grande ligue qui est suivie partout sur la planète.
On aurait pu parler également de cette saison de football de la NFL qui, contre vents et marées, réussit à avoir lieu, mais on va retenir que les Pats ne font pas les séries pour une première fois un méchant bout.
Ben, c'est vrai. Puis on peut pas faire autrement que de faire un lien avec Brady qui a quitté l'organisation. Puis là, ça donne qu'on fera pas les séries cette année. Mais chapeau à la NFL puis à toutes les autres grandes ligues parce que, comme j'ai mentionné plus tôt dans le show, toutes les ligues ont trouvé le moyen de passer au travers cette pandémie-là et octroyer un trophée à la toute fin sans avoir perdu la vie de personne, là, comme on dit.
On s'arrête, Jay. Au retour, bien sûr, on parle d'hockey du Canadien et de notre petit coup de cœur en fin d'année 2020. Bougez pas, on revient. On est retour en compagnie de Jérémy Filosa. On parle des moments marquants du monde du sport de 2020, ce qui nous a marqué. Et Jérémy, moi, ce qui m'a marqué, c'est que la pandémie aurait été bonne pour une personne, Claude Julien. Parce qu'il s'en allait encore une fois rater les séries. Et là, on ne pouvait pas dire que Weber avait manqué à moitié de l'année. On ne pouvait pas sortir énormément d'excuses pour justifier ce qui se passait. J'ai eu vent. Puis, tu sais, je suis pas capable de confirmer, mais que Claude aurait peut-être perdu son poste, n'eût été, de cette série 3-5 contre les Penguins de Pittsburgh.
Bah, écoute, je sais pas si il aurait perdu sa place, s'il aurait perdu son poste, mais c'est sûr que le tournoi de cet été a vraiment tout changé pour le Canadien de Montréal, selon moi, parce que je vois pas comment le Canadien aurait été, parce que là, ils sont all-in, puis ça fait du bien là, de les voir all-in. Ça fait longtemps à tabarouette qu'on est assis à la table de poker, puis on lance nos cartes dans le tas, comme on dit. Là, on fold. Mais là, le Canadien est all-in pour la première fois depuis longtemps, puis on attendait ça depuis des lunes. Et c'est ce tournoi estival-là qui a permis à l'organisation de faire ce tournant-là, de prendre ce tournant-là, parce que je pense pas qu'il l'aurait fait sans ça. Et on a pris des décisions importantes aussi. Maintenant, je veux dire, si Claude Julien était sur la corde raide cette année, ben ça va être la même chose l'année qui s'en vient. C'est-à-dire que si on débute pas l'année comme on le désirait, on n'aura probablement pas beaucoup de patience pour Claude Julien non plus. Je sais pas ce que t'en penses, là.
Non, je suis avec toi. Puis en plus, ça sera pas un marathon, ça, là. Ça va être un sprint, 56 matchs. Pas le temps de faire des ajustements, puis être 8-2, là. Ah, pas le temps.
Non, pas le temps. Puis écoute, j'ai comme l'impression que pour la division canadienne cette année, là, ça va être plus que compliqué parce que tu vas te rendre dans les séries éliminatoires brûlées à l'os. Mettons là, que c'est 1 contre 4. Là. Mettons, on va donner un exemple. 1 contre 4, 2 contre 3 dans les playoffs. Là, bon, ben, OK, parfait, c'est Vancouver la première. Aller-retour, Vancouver, en way, let's go, on fait des allers-retours. Là, le deuxième coup, à ta minute, c'est Calgary. Ouais, on fait des allers-retours à Calgary. Hey, écoute, là, je veux dire, ils vont tellement voyager, eux autres, cette année, là, ça va être l'enfer. Je sais pas dans quel état les gars vont se rendre jusqu'au bout. Puis il faut prendre en considération qu'à 56 matchs, Martin, là, on joue en moyenne aux deux soirs. Fait qu'il n'y a pas de période, de repos. Là.
Ben, il faut qu'ils soient intelligents. S'ils sont pour envoyer l'équipe à Vancouver, s'il vous plaît, faites-nous un 3-4. Joue jeudi, congé vendredi, joue samedi, dimanche. Tu arrives à Vancouver, tu prends un aile d'un hôtel là-bas, tu t'installes pour 3-4 jours. Là, c'est là que tu vas être niaiseux puis tu vas être brûlé si tu vas faire un match sur 10 puis tu reviens puis tu vas faire ça 5 fois à Vancouver.
Ben,
joue en 3 d'une shot parce que de toute façon, on joue le match contre tout le monde. Ben, sauf
plus que ça.
Comment
parce que ça va être 8 games. Tu joues 8 games contre Vancouver. Fait que c'est 4 là-bas, 4 ici. Ben, ça dépend.
Contre tout le monde puis 10 contre Toronto puis Ottawa.
Bon, 9. Ça veut dire que t'en joues 4 là-bas. T'es tout si bien les jouer les 4 d'une shot, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Reste là pendant 10 jours, joue tes 4 games, puis reviens. Je sais que c'est poche maudit pour les amateurs qui vont regarder la même équipe 4 fois en 10 jours, mais t'as quasiment pas le choix, comme tu viens de mentionner. Sinon, tu fais quoi? Tu vas retourner 3 fois à Vancouver?
Ben non. Ah ouais, ben, moi, c'est ce que je voyais, une série de 3 combo baseball, là, l'animosité qu'il va y avoir au troisième match. J'en ai parlé avec Antoine Roussel, j'en ai parlé avec David Perron, j'en ai parlé. Écoute, les gars aussi, ils le disent, là, c'est sûr que s'il y a un cheap shot dans la première game, ça va créer des rivalités incroyables. C'est une année bizarre. Profitons-en pour essayer des affaires comme ça, emprunter à un autre sport qui pourrait peut-être couper dans les dépenses, mais augmenter au niveau des rivalités. Ça pourrait être le fun. Là.
Moi, ça me fait peur, Martin, le début de la saison, parce que quand je regarde ça, un camp d'entraînement qui va commencer le 3 janvier, puis 10 jours plus tard, la saison commence. Pour vrai, là. Pour vrai, là. Puis là, faut-tu mettre la machine...
pas de match
en
concours.
Marche. Non, pas de match hors concours. Moi, ça me fait très peur pour les blessés. Très, très, très peur. Je sais pas comment on va faire pour éviter les blessures. Ces gars-là n'auront pas eu la préparation digne d'un joueur des ligues majeures que ce qu'il a de besoin pour être au sommet de sa forme, pour performer sur une patinoire dans un match qui compte pour vrai.
Mais tu te souviens-tu ce que Kirk Muller avait dit? Ça remet en question la longueur des camps d'entraînement parce que les gars sont pas arrivés pour jouer pour une saison régulière, ils sont arrivés en forme pour jouer pour des séries.
Oui.
David Perron, il dit, écoute, on est au pic, là. On est prêts. Mettez le puck sur la glace, on est prêts. Fait que t'as raison, j'ai hâte de voir. Quand la saison va commencer, s'il n'y a pas de blessure, ils auront peut-être un argument à la prochaine négociation. Mais si jamais il y a des blessures, c'est toi, Jay, qui aura raison.
Ben, c'est ça. Puis là, l'affaire, c'est que c'est pas tout le monde qui va arriver dans les mêmes conditions. C'est pas tout le monde qui va avoir eu accès à une patinoire. C'est pas tout le monde qui va avoir eu accès, qui va s'être entraîné avec le même sérieux. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Je trouve que c'est pas mal serré. Avec l'entente qui a eu lieu, à la mi-décembre, je me serais peut-être attendu à ajouter une semaine de plus au début de la saison. Mais bon, regarde, on a voulu respecter la date qu'on avait décidée. C'est correct comme ça. Mais écoute, moi je crains pour la fatigue des gars, je crains pour le spectacle qu'on va avoir, je crains pour l'énergie, je crains aussi pour les blessures. Mais en tout cas, on verra.
Rapidement, Jay, une division canadienne, il y en a 4 qui font une série sur 7.
Oui.
C'est qui les 4? C'est qui les 3 qui ne font pas?
Ah, écoute, c'est toute une question parce qu'on dirait que tout le monde dit automatiquement en claquant des doigts qu'Ottawa ne sera pas dans le coup. Puis que je pense que c'est la seule équipe qui fait l'unanimité. Puis peut-être que c'est vrai, ils les feront peut-être pas. Mais les Sénateurs d'Ottawa, cette année, normalement, devraient prendre un pas d'avance. Ils devraient avancer là, en tant qu'organisation, en tant que club. Cette équipe-là, à un certain moment donné, ils ont quand même des bons jeunes éléments. Ils vont commencer à... Mais il va y avoir des déceptions. Ça veut dire que tu vas avoir des clubs qui ne feront pas les séries. Quand tu regardes Edmonton, tu te dis il devrait être là, mais ça se peut qu'ils déçoivent. Edmonton, ce serait pas une surprise près là, s'ils faisaient pas les séries éliminatoires. À Toronto, ça serait désastreux si on faisait pas les séries éliminatoires. Est-ce que Winnipeg est déjà rendu sur la pente ascendante? Est-ce que leur fenêtre commence déjà à se fermer? C'est pas impossible non plus. J'ai de la misère à déterminer, mais moi je pense que les équipes qui vont éviter les blessures, ça va être les équipes qui vont faire les séries.
Canadien, es-tu là?
Ben, normalement, oui. Oui. J'ai regardé aujourd'hui là, les cotes, les paris sportifs. Là, on les place au 4e rang. Puis ça pourrait bien être ça. On verra. Mais avec les ajouts qu'on a, on connaît pas trop cette équipe-là, de quoi elle va avoir l'air. Mais tout reste à être prouvé sur papier et sur la patinoire aussi. Là. T'as bien beau avoir les éléments, mais il faut que ça clique.
Jay, 2 minutes pour parler de notre coup de cœur 2020. Puis ça vient tout juste d'arriver. Le petit Tiger Wood, le petit Charlie Wood qui a joué avec son père. Écoute, il n'y a personne qui a parlé de qui a gagné ce tournoi-là. Il n'y a personne qui a parlé du deuxième, du troisième. On n'avait que deux yeux que pour Tiger et Charlie.
Écoute, je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai vu Tiger jouer à la télé. Il n'était pas encore professionnel. Je pense qu'il était au niveau amateur. Il était encore très jeune. Je pense qu'il devait avoir 16-17 ans, quelque chose comme ça. Puis j'en revenais pas de ce que je voyais, mais cette fin de semaine, je suis tombé la mâchoire à terre. Parce que quand j'ai vu sur un par 5, le père frappe une shot d'à peu près 300 verges, et le fils qui, ensuite de ça, en 11 ans, attention, avec un bois 5, frappe 179 verges, la balle est à 4 pieds du trou. Là, je dis, oh, attends une minute, là, c'est un coup de chance, là, tu sais, ça peut arriver à tout le monde, puis à un moment donné. Puis là, quelques trous plus tard, non, attends une minute, un autre approche de 115 verges, il la met à l'intérieur de 5 pieds du trou. Hey, j'ai dit, tabarouette. Non, mais c'est incroyable de voir ça, là. Ça va être quoi, ce gars-là, dans 5, 6, 7 ans, s'il continue de jouer de même? J'avais un mâchoire à terre, j'en revenais pas. Puis tellement des beaux moments, parce que Tiger a tellement vécu des moments difficiles dans le passé, avec tout ce qu'on connaît, l'histoire et tout ça, qui a fait en sorte qu'à un moment donné, il a dérapé. Mais de voir qu'en arrière de ça, il y a encore un humain, il y a un père qui apprécie de passer des moments avec son fils, j'ai trouvé ça absolument sensationnel. Je sais pas
incroyable, hein, puis les petites mimiques, là, quand il s'accote sur son bâton, pareil, pareil.
Le petit flip, tu sais, quand il fait un bon coup de fer, là, le petit flip.
Le rouler dans ses doigts.
Ah, écoute, c'est du bonbon de voir ça. J'ai déjà hâte de voir le kid au plus haut niveau. Je ne sais pas s'il aspire à devenir un joueur golfeur professionnel, mais on dirait qu'il y a déjà tout ce qu'il a de besoin. Là.
Écoute, j'ai deux mots pour toi. Cote d'écoute.
Incroyable.
Sitôt que ce jeune homme-là joue un tournoi, les cotes d'écoute seront hallucinantes à ce moment-là. Ça va tout simplement être incroyable. Écoute, c'était belle fun, Jay, faire tout ça avec toi, de regarder tout ce qui s'est passé. On a passé par-dessus les Alouettes qui n'ont pas eu de saison. On leur en souhaite une en 2021. Ouais. Ouais. On n'a pas parlé de nos joueurs de tennis canadiens et nos joueuses de tennis qui... Ouais. Écoute, c'est important de mettre de l'argent dans le sport. Voyez-vous à quel point ils ont un rayonnement qui est incroyable là, quand tu as Félix et Chapovalov qui s'affrontent en demi-finale. Bref, Jay, quel bonheur. Je te souhaite une seule et unique chose pour 2021. De la santé à toi et toute ta famille.
Merci beaucoup, Martin. Et toi aussi, pareillement, bien sûr, et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Puis tu me rappelles n'importe quand. Même durant le temps des fêtes, ça te tombe.
Ah, écoute, tu vas être tanné quand je vais t'appeler. Un gros merci, mon Jay.
Salut. Bye-bye.
Bye-bye. Et vous ne bougez pas. Dans quelques instants, on s'en va du côté des gars de la poche bleue pour quelques bons moments qu'on a eu cette saison.